lecture autobiographique est presque toujours écriture de conflits et de clivages, d'identités qui se cherchent ou qui s'opposent au sein d'une instance protéiforme, la fameuse triade auteur-narrateur-personnage. Le livre En finir avec Eddie Belder d'Edouard Louis, véritable phénomène médiatique et phénomène de librairie de 2014, donc vous vous rappelez. Edouard Louis a 21 ans quand il le publie l'année dernière. Le livre, son premier roman, se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Annonce d'emblée, ce livre annonce d'emblée que les oppositions sont le noyau même du roman et qu'elles y sont poussées à l'extrême. Alors, premièrement, derrière l'unité auteur-narrateur-personnage qui est normalement requise pour la sphère autobiographique, se révèle un conflit identitaire aigu. Le nom Édouard Louis, qui n'est pas un pseudonyme, qui n'est pas un nom de plume, mais c'est vraiment le nom, un changement de patronyme, un changement d'état civil. Eddie Belger est devenu Édouard Louis, pas seulement aux yeux de la littérature, hein, mais aussi aux yeux de l'identité civile. Donc ce nom, Édouard Louis, ainsi que le titre choisi, ne marque pas seulement le passage d'un univers à un autre, de l'univers ouvrier du nord de la France au cercle intellectuel parisien, mais ces indications paratextuelles vont surtout agir comme mise à mort de ce mois d'avant avec la formule lapidaire et tranchante « en finir avec ». Formule qui est finalement tout aussi brutale que les violences et les brimades que Eddie Belger a subies dans l'enfance, des violences subies, observées, physiquement éprouvées et intégrées comme marqueurs de classe. Deuxième marqueur de tension et d'instabilité, dans un texte qui utilise certains paramètres de l'écriture autobiographique, donc la première personne, la fonction témoignage, les entretiens avec la presse, où l'auteur ne cache pas qu'Eddie Belger, c'est lui, ou plutôt c'était lui. Malgré ces paramètres de l'écriture autobiographique, la dissociation auteur-narrateur, la mention roman en couverture, insinue un autre conflit, celui portant sur la question de la fidélité au réel, conflit qui s'est d'ailleurs traduit par des vives polémiques provoquées par la sortie du livre. Alors ces deux aspects, la dualité du je et la transformation de l'expérience vécue, se rejoignent et s'expliquent dans le processus d'écriture du livre et dans ses motivations. Dans ce roman autobiographique, Édouard Louis, formé par la lecture de Bourdieu, et en 2013, avant de publier ce roman, il a dirigé un ouvrage collectif aux presses universitaires de France en hommage à Bourdieu. Donc dans son roman, il démonte et il démontre certains mécanismes de domination et de mise à l'écart dont il a fait l'expérience, que ce soit dans sa famille, dans le quartier et à l'école, en tant que jeune homosexuel grandissant dans un milieu ouvrier défavorisé du nord de la France. Et sous sa plume, ce milieu se fait tour à tour bourreau et victime. Victime d'un système de reproduction qui ne laisse presque aucune possibilité d'ascension sociale, en tout cas selon Edouard. Victime de mécanismes de violence sociale symbolique incorporés de génération en génération et qui se traduisent en une violence physique, verbale, qui s'exprime contre ceux qui dérogent aux règles établies et en particulier à des codes genrés très précis. Et c'est bien par cette transformation insidieuse de la violence, on passe d'une violence subie à une violence exercée, que se jouent les ambivalences et les dualités dans l'identité de l'auteur-narrateur et dans son affiliation à son milieu d'origine. Face à ce milieu et à ces conditions laissant peu de place au libre arbitre et à l'agentivité ou à la puissance d'agir, comme tu l'as rappelé, le livre d'Edouard Louis est la manifestation, et on devrait même dire le manifeste, d'une nouvelle identité. Devenir Edouard Louis, en finir avec, ce n'est pas seulement accepter sa nature homosexuelle et un corps contre lequel il s'est rebellé pendant des années, mais c'est aussi dérouler la maîtrise L'objet qui nous est donné à lire s'offre donc au lecteur comme la confrontation de deux subjectivités, l'une construite en opposition à l'autre. Et c'est un véritable processus simultané de construction, déconstruction qui s'opère, puisque pour couper les ponts avec ce moi d'avant, il faut le mettre sur papier et il faut montrer comment il a été constitué. Cette confrontation nous est donnée à voir dès la première page du livre, dès la scène d'ouverture. Une scène où Eddie Bellegueule se fait cracher dessus par deux autres collégiens, ses bourreaux, qui condamnent ainsi ses attitudes efféminées et son manque de virilité assumée. Dès cette scène d'ouverture, c'est une déchirure qui s'opère. La déchirure de l'identité par la violence, l'individu qui est arraché à la communauté à laquelle il aimerait appartenir, mais aussi un déchirement provoqué par l'écriture. Alors, je vous lis les premières lignes du roman. De mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n'ai éprouvé de sentiments de bonheur ou de joie. Seulement la souffrance est totalitaire. Tout ce qui n'entre pas dans ce système, elle le fait disparaître. Dans le couloir sont apparus deux garçons. Le premier, grand, aux cheveux roux, et l'autre, petit, au dos voûté. Le grand, aux cheveux roux, a craché. Prends ça dans ta gueule. Le crachat s'est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaques sonores qui obstruent la gorge des personnes âgées ou des gens malades, à l'odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents des deux garçons. Regarde, il en a plein la gueule, ce fils de pute. Il s'écoule de mon œil jusqu'à mes lèvres, jusqu'à entrer dans ma bouche, je n'ose pas l'essuyer. Alors, dès cette scène d'ouverture, le nom de famille Bellegueule, et le nom Bellegueule, et dit Bellegueule, on peut croire que c'est une invention littéraire. C'était bien le nom réel d'Edouard Louis. Donc ce nom se trouve associé aux moqueries et à la jure, marqué par un crachat qui va donner aux gueules de Bellegueule une valeur performative. Ce n'est pas un visage qui se devrait d'inspirer le respect, comme l'a montré Lévinas, on en a déjà parlé. Le visage qui permet la relation à autrui comme exposition sans défense, c'est bien une gueule qui nous est donnée à voir. Et le mot gueule apparaît dans chacune des deux phrases citées en italique dans l'incipit. Donc cet incipit comporte deux citations, prends ça dans ta gueule, regarde, il en a plein la gueule. Toutes les deux en italique, toutes les deux comportent ce terme gueule. Ces phrases qui se voient conférer toute la puissance de l'insulte que Didier et Ribon qualifient de citations venues du passé. Mais en décrivant la scène, et c'est là que l'écriture opère une autre coupure, ce n'est pas le mot gueule qui est utilisé par Edouard Louis, mais c'est bien le terme visage, quand il dit le crachat s'est écoulé lentement sur mon visage. Signe discret d'un déplacement de perspective qui va continuer à opérer dans le reste à travers la superposition des registres de langue et grâce en particulier aux italiques qui sont utilisés pour citer le milieu d'origine. Des insultes et des injures, des menaces et des brimades, des brisures, il y en aura d'autres, comme lorsque des collégiens lui demandent de courir pour se moquer de sa démarche, en le menaçant « je t'éclate la gueule si tu ne le fais pas ». Je ne vais pas vous citer toutes les insultes ou toutes les occurrences du mot gueule dans le livre, je n'ai pas tant pour ça. Alors, ces scènes se déroulent en Picardie, région proche de la région des Gueules Noires, ce surnom qu'on donnait aux mineurs du nord de la France. Et dans son livre, Édouard Louis établit une corrélation très nette entre le travail physique pénible et ses effets sur le corps. Dans la galerie des personnages qu'il développe, donc personnages qui sont en particulier les membres de la famille, les parents, les cousins, les oncles, etc., les dos s'abîment sous le fardeau du travail, à l'usine ou au supermarché, et ces douleurs sont perçues, à tort peut-être, comme transmises d'une génération à l'autre, au lieu d'être directement reliées aux conditions socio-professionnelles. Je cite, Ma mère qui disait « Les maux de dos dans la famille, c'est génétique, et après, l'usine, c'est dur. » Sans apercevoir que ces problèmes étaient non pas la cause, mais la conséquence du caractère harassant du travail de l'usine. Fin de citation. Les corps usés trouvent un refuge dans l'alcool et s'expriment aussi à travers les bagarres, tous les deux associés à la vraie virilité reproduite de père en fils. Ce ne sont donc pas des belles gueules qui nous sont données à voir, pas non plus de fierté ouvrière, mais plutôt une résignation transformée en destin, comme lorsque la mère explique à Eddie, alors qu'il n'a que 4 ans, qui dit « Maman, pourquoi est-ce que l'usine ne fait jamais dodo ?» Elle dit « Non, l'usine ne dort jamais. Est-ce que je devrais aussi aller à l'usine comme papa et comme mon père ?»« Oui, mon chéri, tu devrais aussi aller à l'usine. » Donc, pas des belles gueules, mais des gueules cassées aussi, comme le furent celles des soldats de la Première Guerre mondiale, ayant subi des séquelles physiques et psychologiques. Mais 100 ans exactement après le début guerre, les combats ont changé de front. Les gueules sont cassées par les bagarres, par un manque de soins apportés au corps. Les visages des alcooliques se décomposent avant qu'ils ne soient retrouvés, comme le grand-père paternel du narrateur, avec, je cite, sa joue décomposée qui laissait apparaître l'ossature de sa mâchoire où s'agitaient des larmes. Fin de citation. Il est clair que pour Édouard Louis, c'est l'environnement dans lequel il qui a cassé ses visages et ses corps. Les ouvriers, à plusieurs reprises, sont comparés à des animaux. Pas des bêtes libres et sauvages, comme celles que voit le narrateur quand il parcourt à pied 15 km à travers champs pour se rendre à des cours de théâtre, parce que son père refuse de l'emmener en voiture. Mais des animaux soumis à la nécessité, à des pulsions et à des gestes mécaniques. Je cite, mon père avait emporté sa gamelle, la nourriture que ma mère préparait la veille et qu'elle mettait dans un tupperware le lendemain. Mon père mangeait dans sa gamelle comme les animaux. Une autre phrase du livre montre le passage précis où le narrateur choisit le mot gueule, plus à même que le mot visage, pour dire l'usure dont souffrent les corps. Je cite ce passage. Nous passions devant l'usine, devant les ouvriers qui fumaient des cigarettes avant de commencer leur journée ou pendant la pause quand ils avaient débuté le travail au milieu de la nuit. Ils fumaient en toutes circonstances, au milieu d'une couleur si caractéristique du nord ou sous la pluie. Pour ceux qui n'avaient pas encore véritablement entamé leur journée, leur visage, leur gueule était déjà creusée, ravagée par la fatigue, alors même qu'ils n'avaient pas commencé à travailler. C'est Édouard Louis qui répète leur visage. Se reprend, il dit leur gueule et continue la phrase avec leur gueule. Ces mêmes corps sont soumis à la répétition des gestes de l'usine, métonymie de la répétition sociale. L'idée que rien ne change jamais, que les places sont attribuées dès la naissance, que les espoirs de s'élever socialement sont vite anéantis, surtout pour les filles, à qui le milieu, mais aussi l'école, vont attribuer des positions sociales inférieures. Très vite, on les encourage à trouver un métier de caissière, de vendeuse, à se marier et à avoir des enfants. Ce qui va créer, si on suit le raisonnement de Bourdieu, une disposition de consentement à la domination. La place occupée dans l'organisation sociale est donc décrite comme un engrenage et non comme le produit d'un vouloir. Dans cet univers régi par des usages précis, là où la fatalité est intégrée, il n'y a pas de place pour une conduite qui s'écarte des codes et encore moins pour une conduite qu'on qualifierait de déviante. Les déviances qui sont acceptées sont aussi codifiées et fortement liées à la construction schématique des genres. Par exemple, conduire en état d'ivresse, se battre et même s'opposer aux forces de l'ordre sont acceptées comme des marqueurs de virilité, comme des rites d'initiation à la masculinité, elles sont tolérées, voire encouragées. Et cette virilité passe par un refus du souci de soi, qui serait considéré comme efféminé. Pas d'égard pour le corps, pour la santé. Les enfants ne se brossent pas les dents, ils ne vont pas voir le dentiste, on se méfie des médecins, on se méfie des médicaments. Pas d'égard pour une alimentation saine, etc. etc. Ces mécanismes de régulation du corps, que Foucault, dans son histoire de la sexualité, associe à la capacité de tempérance et, in fine, à la capacité de gouvernance aussi, sont ici évacués. La masculinité dans le milieu décrit par Edouard Louis est d'abord affaire de force. Or, dans ce schéma de reproduction presque infaillible, un incident se produit, une anomalie. Un enfant naît dont les gestes, les goûts, ne correspondent pas à ses codes. Il est rapidement entouré de soupçons par sa famille. Ma différence, cette façon de parler comme une fille, ma façon de me déplacer, mes postures, remettaient en cause toutes les valeurs qui les avaient façonnées, eux qui étaient des durs. Pendant des années, Eddie Bellegueule va chercher à se montrer comme ce qu'il n'est pas, il va se travestir, et le travestissement constitue bien à se faire passer pour garçon, pour un dur, à faire semblant, en endossant les signes associés à la virilité et à l'hétérosexualité, aimer les filles et le foot. Il va même jusqu'à rêver d'un centre de rééducation qui le soignerait de ses désirs homosexuels. Malgré ses efforts, le verdict est sans appel. L'orientation sexuelle ne se choisit pas. Je cite Bourdieu, dans la domination masculine, les genres, loin d'être de simples rôles que l'on pourrait jouer à volonté à la manière des drag queens, étant inscrits dans le corps et dans un univers d'où ils tiennent leur force. Et dans la lignée des travaux de Bourdieu, qui explique donc que les genres sont inscrits non seulement au plus profond, enfin surtout finalement dans des univers bien précis, Édouard Louis établit, alors qu'il réfléchit aux tentatives de déconstruction de son identité sexuelle, il établit un parallèle entre identité sexuelle et identité sociale. C'est en effet à sa classe sociale qu'il attribue directement la marginalisation de son identité sexuelle. Identité décrite à travers la terminologie, ou Dieu tienne encore, le vocabulaire de la domination. Je cite, « J'étais dominée, assujettie par ces manières dont je ne choisissais pas cette voie aiguë. Je ne choisissais ni ma démarche, les balancements de hanches de droite à gauche quand je me déplaçais, prononcés, trop prononcés, ni les cris stridents qui s'échappaient de mon corps, que je ne poussais pas, mais qui s'échappaient littéralement par ma gorge quand j'étais surpris, ravi ou effrayé. » Dans les dernières pages du livre, il articule ce lien entre le social et le sexuel en observant les usages de l'autre celle dans laquelle il est entré pour réussir à s'assumer et se construire. Et là, on peut s'interroger sur la portée schématique, peut-être même stéréotypée, hein, cette opposition peut-être trop facile entre les deux classes sociales, l'idée que dans une classe, il souffre, dans l'autre, il n'aurait pas souffert, hein, c'est probablement pas aussi simple que ça. Je cite, c'est vers la fin du roman. Ici, les garçons s'embrassent pour se dire bonjour, ils ne se serrent pas la main, ils portent des sacs de cuir, ils ont des façons délicates, tous auraient pu être traités de pédés au collège. Les bourgeois n'ont pas les mêmes usages de leur corps. Ici aussi, le langage illustre le fait que le corps, que ce soit dans son rapport à la violence, à la maladie, à l'alimentation, à l'identité sexuelle, n'est pas neutre, mais qu'il est donc déterminé socialement. Pour signifier les comportements et les désirs non acceptables, c'est encore à des métaphores animales, bestiales, que l'auteur a recours. C'est même métaphore qu'il emploie pour dire les corps oubliés, le corps oublié. Celui qui se sent monstre, créature, les deux termes sont employés dans le roman, celui qui se sent montré, donc, regarde le monde qui l'entoure, hein, il en enregistre des comportements violents, parfaitement acceptables, intégrés, à l'encontre des hommes, mais aussi à l'encontre des animaux. Et finalement, les passages, les manifestations les plus choquantes de violence, je ne voudrais peut-être pas dire ça, mais sont perpétués à l'encontre des animaux et pas envers les hommes dans ce livre. Par exemple, donc, il observe son père, sa famille, tuer des chatons qui viennent de naître, égorger des cochons et boire leur sang. C'est le père qui est décrit de cette manière. C'est le recours à l'animalité qui intervient également pour évoquer ses propres désirs. Ces désirs interdits et incontrôlables, avec la question suivante qui les sous-tend, suis-je un monstre ? Il se décrit lui-même avec ces images. Par exemple, lorsqu'il explique qu'il sent venir ses bourreaux tous les jours au collège, quand ils viennent le frapper, comme, je cite, les chiens qui peuvent reconnaître les pas de leur maître parmi les autres. L'animalité intervient aussi pour décrire la première fois que le jeune narrateur s'adonne à des jeux sexuels qui vont devenir quotidiens et addictifs avec ses copains et avec son cousin. Il a tout juste 10 ans quand ça se produit pour la première fois. Donc, scène qui relève non seulement de rapports incestueux, mais aussi de rapports contre nature. Alors, lorsque ce jeu est suggéré, le narrateur perd le contrôle qu'il s'était appliqué à exercer sur son corps, et il se trouve pris dans une logique non seulement de consentement, mais aussi de plaisir. Et c'est suggéré donc, après que les garçons ont regardé un film pornographique et se disent « tiens, si on faisait pareil ». Mais comme ils sont trop jeunes pour connaître des filles qui seraient prêtes à faire ça, voilà, ils font ça entre copains. Je cite « J'exécutais, je n'étais pas capable de refuser, je n'arrivais plus à faire semblant d'être rétif ou dégoûté. Mon corps ne me laissait pas d'autre choix que de faire tout ce qu'il s'apprêtait à me demander. J'ai couru jusqu'à ma chambre pour subtiliser les bagues que ma sœur cachait dans une petite boîte à bijoux violettes, rien d'autre qu'un jeu d'enfant, comme les jours où Bruno s'amusait à torturer les poules de sa mère. Je me rappelle de pendaisons de poules avec du fil de pêche, les poules qui poussaient des cris d'horreur indicibles, inimitables, de poules brûlées vives, ou même d'une poule qui, le temps d'une partie de football, avait fait office de ballon. Je me rendais compte, moi, que c'était toute ma personne, tout mon désir, refoulé depuis toujours, qui m'entraînait dans cette situation. Je brûlais d'excitation. Alors, dès le départ de cette première scène, on demande au narrateur de prendre le rôle de la femme, je cite, « celui qui se ferait baiser ». Alors que ces jeux interdits deviennent habituels, le narrateur sent une force animale s'emparer de lui, qui n'a pas réussi à se contrôler cette fois-ci ou à dire non. Plus loin, il écrit, « je ne me lavais plus les mains quand elles étaient imprégnées de l'odeur de leur sexe, je passais des heures à les renifler comme un animal, elles avaient l'odeur de ce que j'étais. » Ces jeux érotiques vont bientôt... vont bientôt être découverts par la mère du narrateur, sortie nourrir les poules, justement, et qui les surprend. Eddie est réprimandé par ses parents, on lui ordonne de ne plus jamais en parler, une injonction qui est mais avant même cela, la rumeur va courir et va s'emparer du village et de l'école. Le jeune garçon, d'abord, ne comprend pas pourquoi, suite à la révélation de ses actes, il va devenir l'objet de moqueries incessantes, pire encore que ce qu'il subissait déjà, alors que son cousin, lui, s'en sort indemne. Il réalisera finalement que les récriminations ne visent pas le fait de faire semblant, mais le fait d'être. Alors cette scène est emblématique de la question du pouvoir, de la domination et celle du consentement. Les jeux sexuels auxquels s'adonnent les jeunes garçons, influencés par un visuel pornographique facilement accessible aux adolescents, mettent clairement en scène des scénarios de domination. Tu feras la femme, celle qui se fait baiser. La position de dominer demeure ce qu'elle est depuis longtemps, comme nous rappelle Foucault dans son histoire de la sexualité. En prenant l'exemple de la Grèce antique, il note que, je cite Foucault, ce qui est difficile à accepter pour les Athéniens, ce n'est pas qu'on ne saurait être gouverné par quelqu'un qui aime les garçons ou qui, jeune, a été aimé par un homme, mais qu'on ne peut pas accepter l'autorité d'un chef qui s'est identifié autrefois avec le rôle d'objet de plaisir pour les autres. Autrement dit, c'est cette logique de consentement qui nuit à la puissance, au contrôle, à l'autorité, constituée comme des valeurs masculines. Et à un autre moment, le narrateur remarque d'ailleurs que sa docilité à l'école aussi est considérée suspecte par sa famille. Pour le jeune garçon, être objet de plaisir et le respect va à l'encontre de son devenir d'homme. Je cite encore Foucault. Le garçon, puisque sa jeunesse doit l'amener à être un homme, ne peut accepter de se reconnaître comme objet dans cette relation qui est toujours pensée dans le camp de la domination. Il ne peut ni ne doit s'identifier à ce rôle. Et personne, je continue en citation de Foucault, et personne n'est plus sévèrement condamné que les garçons qui montrent, par leur facilité à céder, par la multiplicité de leurs liaisons, ou encore par leur tenue, leur maquillage, leurs ornements, leur parfum, qu'ils peuvent trouver du plaisir à jouer ce rôle. Mis dans la position, cette position de soumission, déguisé avec les bijoux de sa sœur, le narrateur réalise des fantasmes de déguisement qu'il avait l'habitude de jouer en secret. Je cite, « J'y dérobais les vêtements de ma sœur que je mettais pour défiler, essayant tout ce qu'il était possible d'essayer. Les jupes courtes, longues, à poids ou à rayures, les t-shirts cintrés, décolletés, usés, troués, les barassières en dentelle ou rembourrées. Ces représentations dont j'étais l'unique spectateur me semblaient alors les plus belles qu'il m'a été donné de voir. J'aurais pleuré de joie quand je me trouvais beau. Mon cœur aurait pu exploser tant son rythme s'accélérait. » Cette dernière citation nous dévoile une autre facette du projet d'écriture. Celui qui se sent monstre, marginalisé, montré du doigt, va montrer au grand jour par l'écriture toute la violence de cette domination sociale et les conséquences dévastatrices d'une normalisation sexuelle à laquelle ses propres désirs échappent. Par le passage de celui qui est montré à celui qui montre, l'écriture va mettre l'auteur-narrateur dans une position non de soumission ou de consentement, mais de contrôle et peut-être aussi probablement de manipulation ou en tout cas de reconstruction, de transformation du matériau vécu. Alors comme j'ai essayé de le montrer dans cette communication, dans En finir avec l'animalité est un point de référence constant pour dire la brutalité, la domination, tout d'abord sur un plan socio-économique, le rapport au corps et au travail, la violence des conditions de vie des classes populaires, qui est une violence qui est souvent tue de nos jours, et on se situe vraiment au niveau des effets de la violence sur les individus. Il n'y a aucune conscience politique dans ce texte, pas critique institutionnelle du tout, on est vraiment uniquement au niveau de la communauté, de la micro-communauté et des relations entre les individus. Mais l'animalité est aussi là pour caractériser l'origine des plaisirs et l'utilisation et la construction du corps sexuel. Alors Foucault a montré comment dès l'Antiquité le rapport au corps est perçu comme indication de la place que l'on joue, que l'on est mené à jouer dans le corps social, et aussi comment la sexualité s'est vue accorder des dispositions éthiques. Que le livre s'ouvre sur un visage injurié n'est pas anodin. Ce visage cassé, ce corps au contour fragilisé, cette identité attaquée sont à reconstruire. Le livre est aussi le récit de la construction du sujet à la réalisation d'une identité présenté comme incompatible avec les codes du milieu ouvrier dans lequel il a grandi, milieu où le rapport au corps, la répartition des genres, les questions de féminité et de virilité sont régis par des usages ancrés au plus profond des êtres et de leur langage. C'est donc aussi et crucialement par le langage que cette transformation doit s'effectuer. Celui qui n'avait pas sa place dans la communauté dans laquelle il a grandi, celui qui se pensait et pensait les autres par le prisme de l'animalité et par la bestialité, s'est mué par son expérience teintée de violence, par un matériau vécu transformé en outil de dénonciation et de réflexion, en un animal politique.